Chapitre 7e. C'était la première fois que les bras d'un homme tenaient Juliette prisonnière. Pour la première fois, ses bras qu'elle voyait depuis 20 ans, sur des milliers d'hommes, séparés et occupés à des offices différents, piège au repos, s'étaient soudainement fait signe et refermés en anneaux de chair autour d'elle. Le piège après 20 ans avait fonctionné. Elle se débattait en criant au secours. Mais l'homme était vigoureux. Tout ce qui sur Juliette n'était pas de matière pure avait déjà cédé. Le collier de fausses perles s'était répandu sur le parquet, les lacets de faux cuir, l'épingle à chapeau en faux acier, la boucle d'oreille droite en strass, tout cela craquait. Juliette comprenait pourquoi les femmes que leur beauté ou leur rang exposent trop au désir des hommes se bardent de platine, se calfeutrent de diamants. Chaque perle qui éclatait sous le pied de l'adversaire dénonçait sa faiblesse, l'humiliait. Il ne restait d'intact sur elle qu'une médaille en or vierge, que la boucle d'oreille gauche, on ne sait pourquoi résistante, dotait celle-là d'une vertu généralement refusée aux strass, et Juliette croyait déjà, alors qu'elle sentait seulement la part de relâchement dans son courage, de résignation dans sa colère, sentir la part de coton dans la laine, la part de soie artificielle dans la soie de ses vêtements, dernier rempart. Elle ne comprenait pas d'ailleurs exactement les gestes de cet homme qui la malaxait, lui semblait-il, comme un créateur. Elle se dépitait de voir ses réflexes de jeune fille fonctionner à tort, du moins elle le croyait, ses chevilles se croisant quand la bouche effleurait ses cheveux, sa main repoussant la tête quand les rotules la harcelaient. Qu'il devait la trouver stupide, à moins, ce qui n'était guère vraisemblable, que ce ne fût la première de ses rencontres avec les femmes. Voilà que les bas, Dieu pourtant en savait le prix, on aurait pu pour la même somme avoir autrefois des jambières de bronze, eux aussi cédaient. Juliette en était réduite à chercher ses armes dans ses visions de la famille qui maintinrent le héros de Salamine agrippé au bateau perse et les candidats au baccalauréat les plus désespérés sur leur version. Trop bousculée pour arriver à sa pensée, elle demandait secours à chacun des souvenirs qui lui arrivaient du passé heureux, où elle n'était pas emprisonnée par cette étreinte, et de ses souvenirs, aucun d'ailleurs ne cédait. Tous, y compris celui de la pêche aux écrevisses, y compris celui du matin même, celui du dernier café au lait dans l'hôtel de la rue Gay-Lussac, était de pur passé, et toutes les figures de l'album de famille défilèrent à son aide. L'homme, bien que fatigué, persévérait, encouragé, lui, par les futurs souvenirs, par la future mémoire de cette charmante lutte, de cette innocence, des pleurs qui allaient suivre. Avouons-le d'ailleurs, cette aventure, Juliette l'avait bien cherchée. Car c'est en plein opéra, à l'étage des comparses, dans la chambre rembourrée où les figurantes et chanteuses viennent s'exercer à pousser les cris de terreur et d'angoisse que le combat se livrait. Juliette y avait succédé à 3 filles du Rhin qui avaient succédé elles-mêmes aux protestants des Huguenots. Le personnel venait d'entendre tous les cris qui se peuvent pousser dans l'eau et dans le feu et il ne songeait pas plus à répondre aux appels de Juliette qu'à se précipiter tout à l'heure sur la scène au secours de Siegfried ou de Marcel. L'homme savait tout cela, et, pour entretenir l'illusion, d'une belle voix rauque criait de temps en temps « À la mort ! À l'aide !» le cri au feu étant seul interdit par les règlements. Ce qui laissait croire à Juliette qu'elle l'avait blessé et ralentissait sa défense. Ou bien, il criait « Vive Roucher !» et le régisseur, soupçonneux qui s'était approché, s'éloignait rassuré en criant « Vive Voirol !» Un machiniste, dans le lointain, répondait « Vive des Thomas !» et le sanglot de Juliette se répercutait ainsi en écho, de plus en plus bruyant, d'officielle jubilation. Les objets dans lesquels Juliette avait espéré un moment, ce revolver, ce sabre sur cette table, la trahissaient, étaient de bois, car la chambre servait de magasin d'accessoires. Elle en menaçait en vain son agresseur, se demandant avec angoisse si la faiblesse de ses armes n'allait pas laisser croire l'homme à la fausseté de sa défense. Aussi, parfois, d'une main pour une seconde libérée, Juliette parvenait péniblement à ouvrir un robinet à gaz, un robinet à eau. L'homme, d'une main prisonnière, les refermait avec aisance. L'homme parlait. « C'est une lutte entre 2 éléments », avait-il déclaré dès le début du combat, pour diminuer sa responsabilité quand elle l'avait pincé. « C'est l'homme contre la femme », avait-il rugi, quand elle l'avait mordu. C'est la Parisienne contre l'étranger, avait-il pu balbutier quand elle avait jeté sur son visage et dans sa bouche les poudres de couleur étalées sur la table. Mais, de lutte rituelle, de danse antique qu'elle était au début, à mesure que Juliette injuriait ce pouce écrasé qu'il avait, qu'elle contrefaisait son accent, qu'elle cassait ses lunettes, qu'elle criait avoir eu une toute autre idée des petits Russiens, ses compatriotes, la lutte entre eux était vraiment devenue personnelle. Si bien que maintenant c'était Juliette de Laval contre Boris Selmalov et Ekpers contre Kiev. car l'homme l'insultait aussi, en décrivant en haute voix ses charmes, ou plutôt presque exclusivement ce qu'il appelait ses ourlets, l'ourlet de ses lèvres, l'ourlet de ses oreilles, toute une série de divins ourlets qui la rendaient plus finie par Dieu au regard des hommes et des petits Russiens. Et si elle détournait alors son visage rougissant, il bondissait et criait avoir découvert l'ourlet de chacun de ses cheveux. Il était 3 heures de l'après-midi. Ville enchantée qui s'anime autour d'un sacrifice, l'opéra s'animait. Par plus d'escaliers et de couloirs et de trappes qu'il n'en faut pour descendre aux vrais enfers, Orphée et Eurydice débouchaient pour la répétition sur la scène que bornaient, aussi irrévocable, aussi vide d'espérance et d'air que de vraies montagnes, les décors de Guillaume Tell. Les deux amants affectaient de ne pas s'en apercevoir, mais le spectateur ne pouvait s'empêcher d'attendre que leur plainte immortelle revînt de la Jungfrau en tyrolienne. Sur ce qu'ils appelaient le Styx, au-dessus du reflet de Chillon, flottait une barque à voile triangulaire. Charon avait hissé un pavillon à croix et pêchait la brème. Les ombres, sortant de leur chalet, au lieu d'asphodel, s'offraient de vraies fleurs de neige, rapportées de la veille à Mademoiselle Bélia, l'étoile, par son amant Helvète, le chocolatier. Il avait neigé aux enfers. Les figurantes de Manon garnissaient le côté jardin, les filles fleurs le côté cour, car c'était la première fois que la partie d'Orphée était chantée par un homme et toutes voulaient entendre. Étaient rassemblées et mêlées sur le plateau les poussières les plus attrayantes dont l'humanité époudrait sa gaieté ou son pathétique, les phares aussi les plus solides, et sur le tout, un orchestre, noir et sans mélange, s'obstinait à souffler des enfers. Les danseuses étaient mélancoliques. Il n'était jamais venu à leur pensée qu'Orphée dut être un homme, ni Iseu, ni Coppelia. Elles eussent été moins surprises d'entendre les plaintes de leur mère sur les bonnes et le prix des linoléums clamé soudain par elles en voix de ténor. Il leur en venait l'idée que les hommes étaient tout d'un coup plus sensibles. Elles-mêmes se sentaient plus tendres, sentaient soudain dans leur gorge de danseuse un timbre d'éphèbe et, pensant à l'amour, rudoyaient leurs amants. La régie essayait de nouveaux décors par projection. Eurydice mourait après avoir épuisé toutes les teintes intermédiaires entre rougeole et scarlatine. Tout gorge de pigeon, Orphée sanglotait. Mais personne ne comprenait que cette résonance, cette tendresse, cette couleur changeante qu'avait aujourd'hui l'opéra, lui venait de ces deux belles pilules humaines qu'il avait absorbées et qui continuaient à lutter en son centre. Tout cela, Juliette l'avait bien cherché, le soir où elle avait voulu réaliser le vœu consigné à la page 80 du carnet, connaître un Russe, l'épouser, être abandonnée de lui, le reprendre, l'abandonner. Elle ne croyait certes pas que l'exécution du premier paragraphe fût à elle seule aussi épouvantable. Mais les Russes sont comme la Russie. Toutes les fois où ils aperçoivent une âme large et agitée, ils se précipitent, comme la Russie, vers la direction où est signalée la mer, qu'elle soit tiède ou glacée. La folie thalassocratique avait jeté Boris à la poursuite de Juliette, depuis le jour où il l'avait rencontrée dans le restaurant russe de la rue Sainte-Geneviève. Juliette aimait ce restaurant. C'était le seul enclos en ce monde où les devoirs pratiques de la vie étaient ennoblis par le personnel humain et où la vie s'écoula telle qu'elle est présentée aux enfants en bas âge pour les attirer. La soupe était trempée par des princesses, les verres lavés par des pages, les beefsteaks servis par des maréchaux. Parmi toutes les promesses faites par les grands-mères aux enfants rêveurs ou malades, une, du moins, la seule, était réalisée du fait de Lénine et Trotsky. Le pain était servi par les petits-neveux de Pouchkine, le sel était offert par les petites-filles d'Ivan le Terrible. Juliette était touchée de recevoir sa nourriture terrestre de beaux garçons et de belles filles, descendues pour cet office de la poésie et même du pouvoir. Tous les soirs, modeste, en robe noire, elle montait jouir de sa royauté. Boris était au milieu de sa vie et au terme de sa fortune. Du moins, il en jugeait ainsi d'après le volume de sa chambre. Né dans la chambre verte du palais Selanlov, chambre toute rouge d'ailleurs, dénommée verte à cause du liséré vert des rideaux, liséré imperceptible à l'œil non prévenu, mais aussi éclatant pour les Selanlov que l'est pour un parrain, dans l'être qui a tout pour qu'on l'appelle Jean, la raison de l'appeler Hippolyte. Chambre qui cubait 400 mètres. Il était parvenu aujourd'hui, après l'atelier de Tremont Street et la chambre du Tocatlian, à une mansarde de l'hôtel Grillon, de volume juste intermédiaire entre celui de la chambre verte et celui du cercueil. Celle des femmes qu'il aimait depuis sa jeunesse voyait ainsi le plafond se rapprocher irrévocablement de lui, comme dans un conte d'Edgar Poe, et avait peur. Boris tenait de son précepteur des ardeurs poétiques incroyables. qui lui avait été inoculée dans toute leur véhémence, car le précepteur était vierge, et il lui restait de cette éducation un langage saturnien auquel les femmes résistaient peu, car il semblait les atteindre aux bornes de la réalité. Ainsi que ces femmes arabes qui la nuit passent en dehors de la tente conjugale leurs jambes et leurs bustes à leur amant, la moitié fidèle de leur corps éclairé par l'œuf d'autruche, la moitié désirée par la lune, les amis de Boris, avec la tête la plus lucide et la plus raisonnable, avec des désirs normaux de goûter et de couturier, lui abandonnaient un corps pour une minute changé d'astre et de climat. Boris était beau, d'une beauté régulière, mais les traits réguliers étant rares en Russie, il se croyait la beauté du diable. Il était honnête, mais il se croyait sans scrupules. Comme il était le chef en jeu pacifique, en charade, au poker, de la bande de jeunes blancs qui avaient tué pas mal de tyrans juifs, il s'imaginait être leur chef en meurtre. Parfois, le soir, il bénissait Dieu qui lui avait accordé, à lui assassin, de ne jamais assassiner, à lui vandale, de ne jamais brûler de musée, et des actes qui pour d'autres sont anodins et banals, comme se trouver seul en wagon avec un Rothschild, ou seul enfermé avec un Rembrandt, lui procurait un sentiment de purification. Il était généreux et se croyait dépensier. Il était adroit, mais il croyait que l'adresse est ce que l'on appelle la tricherie. Toutes ces qualités d'ailleurs, au lieu d'être ajustées, comme l'éducation des Selenlov l'exigeait, sur un axe mâle, tel qu'amour de la patrie, ou dévotion à Paul Ier, ou conquête du Turkestan, l'était sur sa principale passion, celle des timbres-poste. L'élan, l'attendrissement que donne aux hommes la lecture d'une lettre attendue, c'était la vue seule du timbre sur l'enveloppe qu'il a donnée à Boris. Il ne relisait jamais une lettre, mais il regardait 20 fois le timbre. C'était pour lui l'étiquette d'origine sur ses paquets de nostalgie. Ces petits carrés arrachés au grand drapeau des timbres-poste, inépuisables comme la mer, ces lettres et ces chiffres ineffaçables comme des tatouages mais gravés sur des lamas, des condors, des ours, il les aimait, et c'était presque par un baiser qu'il les collait sur ses propres lettres. Leur teinte si spéciale selon l'année, le climat, le degré de révolution, était pour lui plus clair que des mots de passe. Il connaissait tous les timbres, tous les mots de passe de l'univers, ceux qui avaient permis en 1870 aux veuves du Paraguay privées d'hommes d'appeler au secours de la race les cousins et frères émigrés, les mots de passe entre l'île Maurice et le monde en 1847, entre le Saint-Siège et l'Italie vers 1864. Il comprenait tous ces appels des pays soudains compromis dans une infortune ou dans une guerre, quand apparaissent sur les timbres, sur les vues de ville ou sur les blasons, comme Man, Tessel, Fares apparu, les surcharges. La vue des surcharges lui serrait le cœur. Car si elles annoncent quelquefois un état naissant, si elles sont le premier souffle de la Lituanie ou de la Tchécoslovaquie sur le visage des empereurs déchus, si parfois, venant du centre de l'Afrique ou de l'Asie, elles indiquent un raid audacieux, une casbah conquise, ils savaient par expérience qu'elles annoncent surtout la révolution, la débâcle, et que leurs chiffres, par leur multiplication même, indiquent que l'or s'épuise, que le courage fuit, et monte comme le plus sûr thermomètre de la nation malade. Il lui suffisait de feuilleter sa collection pour éprouver les sentiments qu'il faut d'habitude Balzac ou Dostoïevski pour aiguiser en nous. Le sentiment du gaspillage, il l'éprouvait à son comble quand, sur une enveloppe vieille de 15 ans, il s'apercevait que l'expéditrice avait collé un timbre d'un centavo ou d'un copec trop cher. Le sentiment de la tyrannie, quand sur les lettres écrites par Vassia Dourov du Gibraltar, au lieu du timbre espagnol, il voyait le timbre anglais. Son imagination poétique ne se nourrissait qu'en sa collection. Il possédait les 10 premiers timbres de la Réunion, encore neufs, et c'était à ses yeux de quoi pour la petite fille de Virginie d'écrire 10 fois aux descendants de Paul. Un timbre suffisait à lui donner l'élan que donne à d'autres un accès de tendresse, un air nouveau, un chien perdu. C'était le jour du timbre de la Guyane hollandaise qu'il avait forcé sa cousine affamée à accepter ses 10 dernières émeraudes. Le soir du premier timbre par avion, qu'il avait dans son enthousiasme attaqué les bolcheviki au sud de Sébastopol et sauvé 3 équipages encore à terre. C'était parce qu'il songeait en ce moment au vermillon terne, au premier timbre de 1 franc français, à cette tête de femme à nez grec, à menton américain, au cou de guillotiné, avec du maïs entremêlé dans ses tresses, qui personnifia la France en 1849 aux yeux du monde, qui laissait maintenant Juliette l'attirer, il le voyait bien, vers un guéridon chargé de vrais poignards. C'était parce qu'il pensa soudain, par analogie, au premier timbre russe, au dikopek brun et bleu, avec ses petits corps de chasse qu'on y introduisit au-dessous du double aigle l'année de la naissance de son père, ses foudres qu'on passa dans les corps l'année de sa propre naissance, ses hameçons qu'on ajouta aux foudres l'année où Vassia mourut, qu'il laissa Juliette choisir le poignard tcherkesse, bien que sa connaissance des peuplades de l'Asie lui fit prévoir que c'était le mieux aiguisé. Ce fut parce qu'il revit l'aigle double, blason de son empereur, cet aigle double qu'on ne trouve plus dans le monde que sur le pont Alexandre III, devant lequel il s'arrangeait pour passer au moins une fois la semaine et tous les jours anniversaires de sa famille et du tsar, parce qu'il le revit sur le 14 copec bleu et carmin, sur le timbre heureux avec lequel il avait scellé ses toutes premières lettres, quand il avait écrit à son père à Wiesbaden sa première lettre française, à sa tante à Nice sa première lettre italienne, à Miss A. W. Chapels Johnson, à Vladikov sa première lettre anglaise, le plus commun de tous les timbres, coté un sou au plus dans le catalogue, à cause des malheurs de la Russie le plus précieux de tous, que les larmes lui vinrent aux yeux. Et, enivré du souvenir de tous ses débuts à travers les différents langages, à travers les différents sentiments sous l'estampille de cet oiseau pourtant si peu destiné à porter les messages et à devenir symbole de tendresse, il laissa Juliette dégainer. Mais comment avait-il attiré Juliette en ce repaire ? Boris, à la vue de Juliette, en était devenu amoureux. Or, les amours de Boris, si elles duraient moins que chez d'autres les passades, avaient chaque fois toutes les caractéristiques d'un amour surhumain. Dès le soir de leur rencontre, il forçait Juliette à accepter la seule photographie qu'il eut de sa nourrice, qu'on avait eu tellement de peine à faire poser. Son père Dmitri la croyait d'origine musulmane. Il éprouvait un désir furieux d'alimenter Juliette lui-même, de lui donner à boire, à manger. Il lui confiait le dernier souvenir qu'il eut de sa mère, dans ce grand pré où elle était venue le voir jouer, et où la nourrice avait refusé de faire lever à coups de pioche la vache Brette, l'oncle Paul la disait d'origine hindoue. D'autre part, Boris ne renonçait jamais à un projet. Il avait acheté, à l'âge de 20 ans, et encore récemment à Paris, des jouets qu'il avait tout petit désiré en vain. Tout ce que touchait son désir restait pour toute sa vie marqué d'un signe. Il avait obtenu à 40 ans l'amour de femme qu'il avait aimé encore adolescent. Parfois, à Noël, il avait le sentiment de n'avoir pas perdu son année. Ce n'était pas à cause de ses succès, de ses aventures, de ses travaux de l'année même, mais parce qu'il avait enfin découvert le truc de son précepteur pour se libérer de ficelles quadruples passées autour des pouces et des poignets. La femme qui lui résistait, il ne la poursuivait point. Mais il observait inconsciemment de façon si précise qu'en 6 mois, il arrivait à savoir l'heure de ses repas, de ses bains, de son thé. Il a laissé courir les balmusettes ou les ambassades avec la sécurité du lion qui connaît les heures où la gazelle va au guet. En bon chasseur, il s'identifiait tellement à elle qu'au bout de quelques mois, elle le retrouvait développé dans son sens, avec la même ouïe, la même vue, friand des mêmes gâteaux, presque analogue à elle, vêtu de ses couleurs et souvent l'aimait. Devant l'honnêteté de Juliette, Boris avait donc rangé sans ennui le désir immédiat qu'il avait d'elle parmi les désirs de longue haleine étendus dans son cœur comme dans une cave, et d'ailleurs c'était une bonne année de désir, puisque depuis janvier seulement, il y avait, étendu là, bien au frais, un désir de crime, un désir d'être grand-père, et le désir de posséder le 25 centimes raté du gouvernement de Bordeaux. Il laissa donc grandir en lui, presque accolé au désir d'avoir des petits-enfants, le désir de Juliette, et entreprit de la séduire. Boris séduisait les femmes non pas en déployant les côtés séduisants de son esprit, non pas en chantant ou en dansant devant elles, bien qu'il fût excellent dans les deux arts, mais en découvrant le point le plus faible du pont qui reliait leur vie courante au monde de leur imagination. Il est toujours dans la vie d'une femme un souvenir, une habitude, qui ne peut supporter qu'une charge infime d'émotions. Souvenir ou habitude en général du degré le plus modeste, souvenir d'un objet usuel, d'un animal familier, mais qui commande, plus que les grands événements de la vie, sa sensibilité. Quand Boris avait appris le vin préféré de celle qu'il aimait, la gare de province fréquentée d'elle dans son enfance, le nom de son poney, le nom de son fournisseur de stylos avant son mariage, il se savait pleinement armé. Bien des femmes qui n'ont cédé à d'autres que devant le Mont-Blanc ou le Vésuve ont cédé à Boris au seul nom d'une station de Sologne où elle a vu une photographie de petit cheval irlandais. C'est la méthode qu'un dieu intelligent eût utilisée, et non point son vain crédit, pour émouvoir une mortelle. Il étudia donc Juliette. Elle était sans défiance, mais difficile à pénétrer. Provinciale, elle n'avait aucune de ces préférences des Parisiennes pour les fiacres à chevaux, la menthe verte et les antiquités. Les déjeuners dans les bistrots la choquaient, loin de la laisser faible et pantelante. Les promenades aux environs de la place des Vosges la glaçaient, loin de lui brûler l'âme. La visite de Freya la rendit muette dans le taxi de retour, loin d'écarteler son âme aux quatre vents du sort. Boris insista sur les modes de locomotion avec lesquels il avait eu jusqu'ici le maximum de réussite, liés comme ils sont à toutes les opérations les plus graves du cœur, au départ, à l'absence, au retour. Il n'avait d'ailleurs pas tort, et le point faible de l'armure était bien par là. Mais ni l'avion qui lui fit prendre pour aller d'un point au même point à toute vitesse, pour aller du Bourget au Bourget à la vitesse de la terre, d'où elle vit cette cathédrale accroupie, ni la diligence de Corneille en Parisie, où il la conduisit un dimanche voir le tombeau d'un maréchal de Henri III, ni la Rolls-Royce du grand-duc Serge qui les déposa vers minuit devant les étangs de Ville d'Avray, ni la promenade aux chênes de Robinson, lui sur un âne et elle sur un cheval, ne changèrent rien à la placidité de Juliette. Aucune de ces unions ne rendait, que ce fût le mariage de la vitesse avec le style gothique, de la lenteur avec la Renaissance, du luxe avec la lune sur l'eau, de la forêt avec l'amble d'une jument toute blanche. Il éprouva Juliette en automobile. Mais le point faible de son cœur n'avait rien à voir avec le dos d'âne, les chaos, les passages à niveau, et même avec celui d'Achet, où la première barrière vous laisse passer jusqu'au second qui vous arrête, étreinte autour de votre automobile des deux plus grandes voies ferrées de France, dont les automobilistes profitent généralement pour s'étreindre eux-mêmes et s'embrasser. Jamais ce léger mouvement qui incline vers vous la tête de votre compagne alors que tout son corps est déporté de vous par le virage. Jamais, en traversant une ville au crépuscule, quand l'allumeur des becs de gaz fait surgir soudain sous vos yeux l'étude du notaire ou la statue de Chapelain, ce visage qui se détourne et ce corps qui vous cherche. Un jour enfin, il trouva. Ce qui amenait sur Juliette ce sourire, si attendu, ce sourire né non du contentement, mais du relâchement soudain de toutes les forces qui maintiennent le sérieux sur le visage humain, le mélange pour son âme détonnant, l'opium qui détendait parmi ses muscles les muscles qui servent à résister aux attaques des amants, c'était la vue d'un enfant à bicyclette. C'était le souvenir de ce jour, à Biarritz, où, déjà contrariée par l'humidité de notre planète, elle avait vu passer devant la mer quatre jeunes garçons sur quatre bicyclettes de fillettes. Ils allaient de front, à la vitesse d'un oncle ou d'un père au pas, les cheveux noirs collés à la gomme. Ces quatre bicyclettes neuves et égales supposaient quatre petites filles jumelles. La pensée s'engouffrait sans fin devant ce problème dans un labyrinthe de cousins, de demi-cousins, d'amis de cousines qui laissaient l'âme enjouée et sereine. Ces quatre petits Espagnols, entourés de soleil, asséchaient pour Juliette sur leur passage la planète éponge. Ce qu'il y a de plus primitif comme vent d'ouest essayait en vain de distraire à un poil à leur chevelure laquée. Ce qu'il y a de plus ancien en fait d'océan se cabrait et, vaincu, s'affalait comme une sole devant eux. À l'heure du bain, près du port vieux, elle avait trouvé les quatre bicyclettes étalées sur le sable, abandonnées par leur maître pour un autre élément. Elle avait attendu, et c'étaient les quatre petites Espagnoles, à peine sorties de l'eau, mais déjà de tuiles séchées mille ans, qui avaient tout d'un coup surgi et disparu sur elle. Boris était fin. Dès qu'il avait découvert le véritable appât pour celle qu'il désirait, il savait le tendre admirablement, surtout l'ennoblir. Si Juliette avait aimé la combinaison du luxe et de la lune, il eût préparé avec le calendrier et avec l'aide même du météorologue de la Tour Saint-Jacques, qu'il fréquentait comme il fréquentait à Paris tous ceux qui font le temps, le change, la mode. Une promenade à minuit, sous les fourrures empruntées à des amis milliardaires, la lune à son plein, sur une de ces collines crayeuses de Saint-Leu-des-Serans ou Tourlui. Quelle joie c'était pour lui de rapprocher peu à peu une femme insensible de la part de l'univers qui se trouve aimantée vis-à-vis d'elle, montagne, mer, plaine sous l'inondation, grand vin, jusqu'au point où l'aimant attirait enfin irrésistiblement sa victime. Que de fois, pour celles qui ne sont émues que par le spectacle même de la passion, il avait placé sous le porche de Saint-Séverin un faux couplet dont les faux et persévérants embrassements avaient provoqué dans un cœur blasé un élan neuf d'amour. De plus, il aimait le riche, il développait en plus brillant les souvenirs. Il ne montrait la lune qu'en son éclat nouveau. Il aimait les fleuves combles, les gazons rasés. Il montra donc à Juliette le plus bel enfant de Paris, Nicolas Baliachine, sur la bicyclette à roues d'argent qui avait servi au Tsarevitch. Et, quand le petit Baliachine, après 3 tours dans le jardin de la Rubinstein, enjamba sa machine et, accompagné de 2 jeunes lionceaux essoufflés, vint tendre sa joue à Juliette, il n'eut qu'à demander pour obtenir à l'opéra ce rendez-vous, dont il est temps de raconter la fin. Pour l'amour donc du 10 centimes rose semeuse, du timbre qui avait donné valeur officielle vers 1908 à la première lettre écrite par cette jeune fille, Boris avait renoncé à elle. Elle serait seulement, désormais, sa cousine, sa sœur, sa fille. Il se pencha pour lui prodiguer des baisers fraternels. Il la couvrit d'une étreinte de famille. C'est ce moment que Juliette choisit pour lui donner le coup de poignard à la place du cœur. Il porta la main à sa poitrine, puis à ses yeux, pour vite essuyer ses larmes et qu'on ne crût pas qu'il pleurait de souffrance, et eut soudain le visage plein de sang. Alors Juliette poussa un dernier cri d'appel. C'était le seul qui fut inutile. Elle était sauvée, mais tous l'entendirent. D'abord accoururent toutes les danseuses, en tête celle des poses plastiques plus habituées à courir, puis, faisant à lui seul le même bruit sur le parquet qu'elles toutes, un ténor. Puis, seul essoufflé, car pour tous les autres la course était sport professionnel, un machiniste, et, par le trou de la serrure, ils virent pour la première fois dans leur vie ce qu'on voit au cinéma chaque vendredi, une femme penchée sur un homme assassiné. Boris était étendu sur une chaise longue de rotin, lit de mort idéal pour l'été. Il n'osait toucher sa sœur fratricide de ses mains sanglantes, l'étreignait fraternellement de ses genoux, et Juliette, pour la première fois en face d'un crime, se penchait, disposée, semblait-il, à sucer la plaie comme une piqûre de serpent. La porte était maintenant secouée par une douzaine de bras nus sans force, les bras d'êtres imaginaires, aux jambes robustes mais aux biceps bien maigres. Coppelia, Sylvia, Vénus... Boris, qui se savait à peu près indemne, vit avec plaisir quand la serrure eut cédé, se précipiter autour de lui, au lieu d'Hérénie, les jolies filles qui ont coutume d'apparaître, non point dans les heures de crime, mais autour des coups de banque heureux, des triomphes de l'exportation des soies, des victimes de la Dutch sur la Standard, ou des pokerdas souvent répétés, ou des grands prix à Longchamp. Juliette, toujours enserrée par les jambes de Boris, statue jusqu'à la taille, hésitait à se retirer de cette étreinte. Comme on hésita jadis à retirer l'épée de la blessure d'Épaminondas, dans la certitude qu'il en devait mourir. Et Boris souriait, maintenant l'étau de ses genoux, affectant de croire que c'était là désormais la position définitive que Juliette et lui-même avaient adoptée dans la vie. Juliette, exsangue et immobile, ressemblait aussi à une danseuse prise dans une eau soudain congelée. Elle avait voulu se baigner dans la Russie, et la vague qui la portait s'était changée soudain en Boris. Elle n'en revenait pas de cette aventure mythologique. C'était bien au hasard qu'elle répondait à celle des danseuses qui conseillaient de faire une piqûre antitétanique à cause du cheval de la Valkyrie dont l'itinéraire empruntait ce couloir. Elle était prise pour une compatriote de Boris et les danseuses lui parlaient avec cérémonie. « Que son sang est rouge, madame !»« C'est signe de santé, » disait-elle sans penser à ses paroles. Elle était russe au possible. On eut peur en entendant Boris l'inviter à dîner. Une meurtrière a des devoirs envers l'assassiné. Elle accepta, et c'est ce soir-là que Boris choisit pour convives, parmi ses amis, tous ceux dont il savait que pendant la guerre ou la Révolution, ils avaient tué. Il offrit à Juliette les plats de cette voix douce qui avait été pour un être vivant la trompette du jugement terrestre et ceux qui avaient entendu le souffle suprême d'une âme forcée hors de son corps, s'ils aspiraient l'air comme tout le monde, l'expiraient sans bruit.